Uchronie nazie, et si le mal avait triomphé, c'est un peu frigorifiant, donc avec la chaleur, c'est très très bien. Pour en parler, Jean-Pierre Andrevon, Johan Elliot, Christopher Priest. Jean-Pierre Andrevon, on les présente un peu, hein. Une première nouvelle publiée dans Fiction en mai 68, c'est toujours un peu de la légende, mais c'est la vérité. Et une réputation de révolutionnaire, quelques, je ne sais plus moi, plus d'une centaine de romans. Jean-Pierre, on ne va pas le dire plus. Hein. Mais Jean-Pierre Andrevon est sans doute, pour moi, un des auteurs avec lequel j'ai eu le plus d'émerveillement au début de ma conversion à la science-fiction. Et quelques éblouissements sont certains de ses bouquins, comme Le désert du monde, La fée et le géomètre, ou Le travail du furet à l'intérieur du poulailler, qui est devenu en réédition Le travail du furet. Et puis Demain le monde, qui est sorti il y a quelques mois, est une anthologie des meilleures nouvelles de cet auteur. À sa gauche, Johan Elliot, plus jeune, mais déjà pas mal de romans aussi. Combien, Johan ? Une cinquantaine de romans, aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Et lui, un passionné d'histoire, donc il explore des personnages historiques dans ses fictions. Il n'hésite jamais à les utiliser en les bousculant un peu, que ce soit Louise Michel, Jules Verne ou De Gaulle, Aristide Briand, ou des personnages inventés comme Sherlock Holmes, Fantômas, etc. Et à ma droite, Christopher Priest. À lui aussi, je dois quelques éblouissements, et particulièrement avec un de ses premiers romans parus en français, Le Monde Inverti, avec sa phrase de début assez extraordinaire que je me plais à répéter souvent et qui est « J'avais atteint l'âge de 1000 kilomètres ». C'est en effet une planète sur laquelle les terriens sont obligés d'avancer le long d'une ligne de chemin de fer, à remettre chaque fois en avant les rails qui sont abandonnés à l'arrière pour atteindre un point optimum. On n'en dira pas plus parce que c'est un peu compliqué sur le plan de la technologie. C'est très riche sur le plan des personnages. Il a écrit aussi L'archipel du rêve, qui est une série de nouvelles autour d'un lieu neutre en dehors de la grande guerre que se livrent les gens autour. Le Prestige, qui est une histoire formidable, qui a été mise à l'écran par Christopher Nolan. Et La séparation, qui est sans doute le bouquin sur lequel on va le plus parler, puisque c'est avec La séparation qu'il aborde les rivages de l'Uchronie et du nazisme. Donc, une vingtaine de romans, une véritable ambition littéraire pour Christopher Priest. Et moi qui travaille dans le journal bruxellois le soir, je suis assez fier de dire qu'il a même écrit une fois une nouvelle que nous avons publiée. Donc, c'est quelqu'un que je suis content et satisfait et fier d'avoir à côté de moi. Alors, si le mal avait triomphé, les Uchronies nazies, on pense immédiatement à des grands romans de l'ASF comme Le Maître du Haut-Château de Dick ou Rêve de fer, etc. Où là, en effet, c'est facile, les nazis ont gagné. Chez Christopher Priest, l'ambiguïté est un peu plus forte. Dans La séparation, un historien essaie de savoir ce qui s'est passé quand Rudolf Hess a quitté l'Allemagne en avion pour aller rencontrer Churchill et peut-être négocier une paix entre deux. Quel est le rôle de deux jumeaux anglais, des athlètes qui étaient aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 et dont les médailles ont été remises par Rudolf Hess, etc. Donc, c'est flou, mais c'est un peu le rêve de l'emprise du nazisme. Quelle est notre réalité là-dedans? C'est toujours comme ça, un peu avec Christopher Priest. En fait, la première question sera pour Christophe. Eh bien, justement, dans ce bouquin, quelle est l'emprise du nazisme?
Hello. The influence.
The weight.
No particular influence. It was very much, I wanted to write a book about the process by which Uchronie is created. The You'll probably hear more from me about this later on, but it seems to me that when you have an alternative universe, another world, an alternative to what we have now, the process by which that happens is very complicated, but made very simple. In other words, it often turns around a simple act. Somebody makes a decision that's different from the one that's made in history. But I feel that the history has several levels. The process of history has several levels, one of which is a moral one. And most of the Uchronia that have been written have a moral dimension, which isn't properly explored. And I wanted to do that with the separation. Do you want to take over? Yes.
Je pense que, en fait, dans ce livre, ce que j'avais envie de faire, c'était d'écrire un livre traitant du procédé par lequel les uchronies se font. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans la suite de ce débat, mais je pense que quand on crée justement une sorte d'un monde parallèle, une réalité parallèle dans le processus uchronique, la façon dans laquelle ça se déroule est à la fois compliquée et simple. C'est-à-dire que les conséquences sont compliquées, mais le point d'origine est assez simple. On a par exemple une personne ou plusieurs qui vont prendre une décision ou agir d'une manière différente de ce qu'on connaît dans l'histoire réelle. Mais je pense que l'histoire en fait a plusieurs niveaux, et un de ces niveaux, c'est un niveau moral. Et je pense que dans la plupart des uchronies, cette dimension morale n'est finalement pas bien explorée ou pas explorée. Et moi, c'était ce que j'avais envie de faire, c'était de traiter cette dimension-là.
I came across a theory that Rudolf Hess, the Nazi leader who flew to Scotland, was in fact not Rudolf Hess at all, but an imposter, an actor who had been paid to play his part. I found this a very interesting theory, not very plausible, but it was an interesting one. And it played into another fact which I sort of have always found rather interesting about wars and war leaders, which is they all use doubles. Mm-hmm. For instance, Winston Churchill, whose speeches are famous, those famous speeches were all read by an actor, mm-hmm. and a man called Norman Shelley. This is not a theory, this is historical fact. And after the end of the Second World War, Winston Churchill re-recorded his famous speeches, but they didn't sound as good as Norman Shelley's version.
En fait, et une un des moteurs pour la séparation, c'est qu'en fait, je suis tombé sur une théorie à ce que j'ai trouvé assez intéressante, c'est que donc quand Rudolf Hess, le leader nazi, qui est allé en Angleterre pour rencontrer le gouvernement et négocier cette paix, j'ai lu une théorie comme quoi en fait, c'était pas Hess du tout, c'était un imposteur, un acteur qu'on avait payé pour jouer son rôle. Je trouve que c'était une théorie intéressante, pas très plausible, mais intéressante quand même. Et en fait, c'est venu s'imbriquer avec un autre fait, qui est que les chefs d'État et les chefs de guerre, fréquemment, utilisaient des doubles. Et notamment, Churchill, par exemple, tous ses célèbres discours publics n'étaient pas lus par lui, mais par un autre acteur qui s'appelait Norman Shelley. Alors ça, c'est pas une théorie, c'est vrai, c'est un fait. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a réenregistré ses célèbres discours, mais en fait, ils sonnaient pas aussi bien que les lectures faites par Shelley.
Adolf Hitler had four doubles. There's actually an existing film of one of them, which was filmed towards the end of the war, which was thought for many years to be the real Adolf Hitler, but it's now known to have been a double. Stalin had several doubles. Eisenhower had a double. General Montgomery, leading British general, had a double. And this process goes on into modern times. Saddam Hussein had 12 doubles. I mean, can you imagine the worst job in the world and you have to share it with 11 people?
Par exemple, Hitler avait 4 doubles. On en voit notamment un dans un film. On a longtemps pensé que c'était Hitler et qu'il y a un film qui a été filmé vers la fin de la guerre. On a longtemps pensé que c'était Hitler. Mais en fait, non, on a fini par se rendre compte que c'était un de ses doubles. Staline en avait plusieurs. Eisner en avait. Le général Montgomery, général anglais, avait un double. Et ce processus continue, y compris à l'ère moderne. Par exemple, Saddam Hussein, il avait 12 doubles. Vous imaginez le pire boulot du monde et vous le partagez avec 12 personnes.
I'll finish now, but the idea of the separation then developed that in effect World War II had been fought by actors.
Et je vais conclure maintenant, mais en fait, donc l'idée de la base de la séparation, c'est qu'en fait, la Deuxième Guerre mondiale a été menée par des acteurs.
Et les personnages, Johan, que vous utilisez dans La Lune seule le sait, etc., qui sont des personnages historiques, vous les utilisez aussi comme des acteurs.
Ah oui, parce qu'il y a, une très forte influence du cinéma sur mes, sur mes bouquins, et il y a un côté je dirais quasiment caricatural dans, la manière dont je l'utilise, mais tout en m'efforçant quand même de rester fidèle à ce qu'ils auraient pu être dans un cadre précis, c'est-à-dire, si je vais en parler d'une personnalité, que ce soit Jules Verne, que ce soit Napoléon III, que ce soit ensuite le général de Gaulle ou Werner von Braun.
Ça, c'est dans France Atome.
Dans France Atome, j'essaie quand même, malgré la divergence souvent énorme que je fais subir à mon univers, j'essaie quand même de les laisser, de les faire réagir le plus fidèlement possible à ce que, à mon sens, ils étaient. Et d'ailleurs, petit aparté, je me demandais, est-ce qu'on a peut-être affaire à un double de Christopher ? Je suis en train de me poser la question, finalement.
Il n'y en a qu'un.
Unique.
Et dans cet univers de la Lune, seul le sait, sur la Lune se trouvent en fin de compte les libertaires et sur Terre, il y a tous les fachos du coin.
Oui, si on veut.
C'est un peu résumé facile. Hein.
Oui, mais je suis parti à nouveau d'une certaine réalité. Dans notre réalité, après l'épisode de la Commune et après son échec, les anciens communards, les ex-communards ont été déportés au bagne. Enfin à Madagascar et à d'autres endroits, et j'ai juste imaginé, puisque dans mon univers à moi, les extraterrestres ont débarqué en apportant une certaine technologie, celle du vol spatial, que le meilleur endroit où déporter ses anciens ennemis, finalement, c'est encore la Lune. On est au moins sûr qu'ils ne peuvent pas forcément revenir. Voilà.
Jean-Pierre, il y a un livre là qui s'appelle Le dernier dimanche de Monsieur le chancelier Hitler. Alors, je suppose que c'est une uchronie.
On peut dire que c'est une uchronie qui est basée sur, effectivement, la survivance d'Hitler. Et moi, ce qui m'amusait, c'était pas, effectivement, de revenir sur le nazisme, parce que tellement d'auteurs l'ont exploré, dans le réalisme, dans la fiction. Mais c'était le fait que Hitler, en fait, il aurait très bien pu survivre. En mai 45, par des cheminements que je décris dans le bouquin, il émigre aux États-Unis et là il devient un petit bourgeois qui vit des droits d'auteur de Mein Kampf dans un petit deux pièces à Manhattan avec Eva Braun qui désire faire du cinéma, qui s'éloigne un peu de lui, et puis Goering aussi est parti en même temps que lui, mais lui, amateur d'art comme on sait, il a ouvert une galerie de tableaux. Donc je fais vivre ces personnages au ras du trottoir comme ça. C'est vraiment le nazisme, c'est fini, mais il y a eu des survivants, comme de très nombreux dignitaires nazis ont immigré aux États-Unis ou en Amérique du Sud, ou comme Werner von Braun, dont on a parlé, et qui dans l'imaginaire est un créateur de fusées, mais c'était un vrai nazi, Werner von Braun. Il a inventé les V2 qu'il a fait pleuvoir sur Londres, il ne faut pas oublier ça. Donc ce qui m'amusait, c'était de faire vivre un Hitler, un Adolf Hitler minable, vieillissant. Je me souviens de ces images que vous avez tous vues, sa dernière sortie dans Berlin en avril 45, où on le voit engoncé dans sa capote, sa visière au ras des yeux, il commence à trembler, il a l'œil qui coule, enfin il est lamentable. Et moi c'est ce personnage qui m'a intéressé, c'était un vieil Hitler qui finalement est un vieillard comme un autre et qui vit sa petite vie comme n'importe quel retraité. En supposant bien entendu que le gouvernement américain ait accepté de le recevoir à condition qu'il s'oublie, parce que là quand même Hitler c'était pas Werner von Braun, on pouvait pas le monter en épingle et le présenter comme ça à la foule. Donc voilà, ça m'amusait de rendre cet Hitler en faisant un vieillard presque touchant, tout en évidemment ne l'excusant pas. D'ailleurs ce qui lui arrive à la fin, je sais pas s'il faut le dire.
Il a
ce qu'il mérite, il ne faut pas le dire, mais quand même, il reçoit ce qu'il mérite.
Je peux me permettre, c'est une théorie qui n'en finit pas de refleurir. Il y a encore quelques mois sur Internet, on diffusait une photo d'un vieux monsieur de quasi centenaire en Amérique du Sud, soi-disant, voilà, et certains y voyaient évidemment le chancelier Hitler. Voilà, ça.
Non, il aurait 130 ans quand même, quelque chose comme ça.
Ça commence à faire beaucoup. Mais, une photo des années 70 ou 80, je ne sais plus, mais on voyait effectivement un vieux monsieur. Alors, effectivement, la photo étant tellement trouble, on pouvait y voir n'importe qui, mais voilà, ça, c'est un serpent de mer qui rejaillit.
C'est un peu le lieu de tous les possibles et tous les fantasmes aussi.
Tout à fait.
Mais en fait, qu'est-ce qui est jouissif, Jean-Pierre, dans le fait de prendre un personnage et de voilà, le mettre à votre sauce.
Je ne suis pas particulièrement cruel, mais le fait de s'acharner sur ce monstre qui est devenu un petit vieillard qui finit mal, ça m'amusait beaucoup, parce que c'est un exercice d'humour noir peut-être, mais d'humour quand même, que j'ai voulu faire, et c'est pas du tout une théorie, c'est pas de l'Uchronie, c'est pas une théorie sur les clones, ou sur les doubles, ou sur... Non, c'est un personnage comme ça que j'ai voulu faire revivre, en me disant, mais si vraiment il a survécu, qu'est-ce qu'il serait devenu? Ben, il serait devenu ça, quelqu'un qu'on a oublié, ou quasi oublié, et encore une fois, ça m'amusait aussi de le faire vivre avec les droits d'auteur de Mein Kampf, parce que beaucoup de gens ont envie de lire Mein Kampf, aujourd'hui encore d'ailleurs. Et il n'y a pas de mal à ça. D'ailleurs, on peut très bien lire Mein Kampf sans devenir nazi pour autant. Hein. C'est un bouquin, c'est tout. Les bouquins, on en fait ce qu'on en veut. Donc voilà, quoi, ça m'amusait. Et puis de recréer les États-Unis à la fin des années 40, Manhattan, avec tous les changements, la télévision qui commençait à prendre le pas sur le cinéma. Parce qu'un des passages principaux du livre, c'est effectivement Hitler qui passe dans une émission de télé-réalité où on le fait parler sur son passé. Mais comme il est à peu près complètement gâteux, il se souvient plus vraiment de ce qu'il était, de ce qui lui est arrivé. Donc tout ça était très, très amusant pour moi, quoi. Et chaque fois que j'ai traité le nazisme, c'était comme ça, par le petit bout de la lorgnette. J'ai aussi écrit une nouvelle qui s'appelle l'anniversaire du Reich de Milan, parce que les dignitaires nazis pensaient que le Reich durait 1000 ans. Or, le Reich a duré 13 ans. Et moi, je dis, mais s'il avait duré 1000 ans, ben, effectivement, il dure 1000 ans, mais au bout de 1000 ans, ben, il tombe en poussière, parce que 1000 ans, c'est pas 1001 ans. Donc c'était amusant aussi de recréer un monde où le nazisme a perduré, a vaincu, a conquis le monde entier. Et puis le fameux anniversaire des 1000 ans, tout tombe en poussière, les chars rouillent, les immeubles à la Albert Speer tombent en ruine, etc. Donc voilà, c'était ma manière à moi d'attaquer le nazisme par ses fondations, mais toujours avec un peu, j'espère, de légèreté et d'humour.
En fait, Johan, l'écrivain, il peut tout se permettre. Il peut prendre Louise Michel ou Jules Verne et en faire ce qu'il veut.
Et heureusement, oui. Je pense qu'on a cette fantaisie, ce pouvoir, je ne sais pas comment le désigner, mais cette totale liberté, effectivement. Et là où je rejoins Jean-Pierre, est de ridiculiser ces bouffons. Enfin, oui.
Oui, mais vous ne ridiculisez pas Louise Michel et Jules Verne là-dedans. Hein. Il y a des valeurs qu'on ne met pas en doute.
Non. Quand on a un réel respect pour certaines figures historiques ou fictives d'ailleurs, au contraire.
C'est un vrai plaisir. D'ailleurs, j'ai en projet, je ne sais pas si je le ferai, mais j'ai en projet une histoire qui serait plutôt une nouvelle qu'un roman, où je mettrais en scène Staline, Soljenitsyne et Trotsky, avec des rôles qui serait tout à fait inversé comme ça. Peut-être que je l'écrirai. Vous me donnez envie de l'écrire, tiens.
Dans la nouvelle version, dans Le Rat Blanc, Christopher, qui vient d'être réédité sous une nouvelle version et dont j'ai complètement oublié le titre.
Notre île sombre.
Pardon ?
Notre île sombre.
Notre île sombre. Vous mettez en scène un monde où il y a des milices blanches, des squatteurs noirs, c'est la guerre civile, etc. C'est un peu le monde que vous craignez ?
I was enjoying talking about Hitler.
Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer à parler d'Hitler si vous le désirez.
I'll come back to that. I was going to say there's I recently read a very well researched documentary book which followed the theory that Hitler had escaped to South America, and they interviewed many people in Argentina who just knew that that was Hitler. There was no question that Hitler was there. And that he became, just as Jean-Pierre says, a rather dull bourgeois, somebody who, like Margaret Thatcher, when she was kicked out, sort of sat around saying, I used to run this place, you know.
Oui, je reviendrai peut-être sur la question. Sur Hitler, ce que je voulais dire, c'est ce que je peux dire, c'est que j'ai lu assez récemment un essai assez bien documenté qui nourrit et présente la théorie comme quoi Hitler sera toujours vivant en Amérique du Sud. Et les auteurs ont interviewé un certain nombre de personnes qui vivent en Argentine et qui savaient sans aucun doute, pour eux c'était indubitable, qu'effectivement Hitler était en vie et que c'était la personne dont on parlait. Et effectivement, effectivement, un peu comme dans le livre de Jean-Pierre, il était devenu un bourgeois un peu décrépit, vieillissant, un peu misérable, un peu finalement comme Thatcher après qu'elle se soit fait évincer et qu'elle passait devant les bureaux du gouvernement en disant, vous savez, autrefois je dirigeais cet endroit.
I talked about the moral imperative, and I feel that the because I think it's underrated. I think you have to ask yourself what really would have happened if Germany had won the Second World War, and the fact is that the Nazi regime was actually a very weak and corrupt one, and that it would, as Jean-Pierre has said, would collapse under its own weight. Except it wouldn't take 1,000 years. It would probably have collapsed by about the end of 1946. But supposing they had won in this Ukraine sense, can you imagine how awful it would be now? Everyone in France and England using Bosch domestic appliances and driving Volkswagens and BMWs. I mean, it's terrible. So much to them.
Juste un mot sur donc l'impératif moral. Je pense que vraiment on prête pas assez d'attention à cette dimension. Il faut se demander ce qui se serait passé si l'Allemagne avait gagné la Deuxième Guerre mondiale. En fait, en réalité, le régime nazi était extrêmement faible sur ses bases. Il était très corrompu et je pense qu'il se serait effondré sous son propre poids très vite. Il aurait un peu comme dans je suis d'accord avec ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure sur sa nouvelle. Sauf que ça ne se serait pas passé au bout de 1000 ans. Probablement d'ici vers la fin 1946, ce régime se serait effondré de lui-même. Mais on se pose la question si vraiment l'Uchronie se révélait et que ce serait un régime absolument atroce. Imaginez ça, tout le monde en France, en Angleterre, qui aurait des appareils ménagers Bosch, qui conduirait des Volkswagen ou des BMW, ce serait absolument intolérable.
Mais vous ne seriez pas écrivain alors.
You wouldn't be a writer then if Germany won the Second World War.
Oh, I don't know. Be a double.
Donc, Christopher Price répond, dans ce cas-là, j'aurais justement un rôle de double.
Johan, dans vos fictions, vous imaginez que le Reich gagne et impose son empire?
Par définition, c'est un bel exercice de fiction, d'imagination. Si j'ai tendance à penser, comme Christopher, effectivement, qu'il ne durerait pas très très longtemps, car il porte effectivement, comme Christopher l'a très bien dit, en germe sa propre destruction. Une autre chose, mais s'il existait encore aujourd'hui, là je vais citer Jean-Pierre Lyon qui est ici pour discuter de ce sujet ce matin, nous n'appellerions pas cette conférence « Si le mal avait triomphé », parce que si nous vivions encore sous l'égide du Reich, pour nous ce serait le bien, on ne se permettrait pas de le critiquer comme ça. L'histoire est celle des vainqueurs, je le rappelle. Donc,
En fait, dans votre troisième tome de La Lune, ce sont bien les ligues facho-nazis d'Allemagne qui ont envahi, pas envahi, mais qui se dispersent partout dans le monde.
Tout à fait, voilà. On est dans le second tome, je m'intéresse aux années 30, enfin on va dire aux germes, si on veut dire, enfin, des fascismes, effectivement. Oui. Et à l'époque où ils pouvaient être considérés par les populations avec d'un aspect positif, comme un progrès à venir. Pas oublier quand même que c'était largement le cas chez les populations concernées. Oui.
Et alors là, vous faites intervenir pour le combattre des gens comme Léo Mallet.
Voilà, en revanche...
Simenon, Albert Londres
C'est Albert Londres et Léo Mallet qui sont deux enquêteurs à la solde on va dire de la résistance, effectivement, et qui viennent enquêter au cœur du mal, au cœur de Germania. J'ai donné vie au projet utopique d'Albert Speer dont Jean-Pierre parlait, et j'ai imaginé que la Berlin était devenue la vraie Germania que les nazis voulaient construire.
Dans le travail du Furet, Jean-Pierre, c'est pas le nazisme, mais c'est un empire totalitaire aussi, où qui vit bien, hein, tout le monde est en bonne santé, on vit vieux, mais comme on vit vieux, il y a beaucoup trop de monde, et alors on décide d'en tuer 400 000 par an en France.
Oui.
Et le Furet, justement, est celui qui va tuer les gens qui sont choisis par une espèce d'ordinateur.
Oui, bien sûr, mais chaque système politique se justifie son existence par le fait même qu'il existe. Et moi, je crois pas que puisqu'on s'écarte un peu du nazisme, là, quand même, moi, je crois pas que le nazisme aurait pu survivre. Un seul pays pouvait pas survivre, quel que soit son régime, quel que soit son armement, quand le monde entier était ligué contre lui. Si le nazisme s'est écroulé en mai 45, c'est qu'il devait s'écrouler en mai 45. Le reste, c'est de l'Uchronie, le reste, c'est un travail d'imagination de nous autres écrivains, mais l'histoire, c'est l'histoire, elle est figée une bonne fois pour toutes, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est arrivé, c'est ce qui devait arriver, donc c'est arrivé parce que ça devait arriver. Bon, bref, on peut parler de la Corée du Nord aussi, c'est peut-être le seul régime qui peut un peu s'apparenter au nazisme, encore qu'il ne se décide pas à conquérir le monde, même s'ils envoient de temps en temps des fusées vers le Japon. Mais l'amusement, encore une fois, je tiens beaucoup à ce terme, parce que nous autres, écrivains, si on écrit, c'est parce qu'on s'amuse à écrire, c'est parce que ça nous plaît d'inventer des sociétés les plus terribles possibles, parce qu'on sait bien aussi que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et dans cette histoire, dans ce roman qui s'appelle « Le travail du furet à l'intérieur du poulailler », effectivement, j'imagine un monde qui est quand même assez crédible, parce que qu'est-ce qui nous menace le plus aujourd'hui ? C'est pas la Troisième Guerre mondiale, il y a peu de chances que ça arrive quand même. Les dirigeants, même s'ils sont un peu fous, ils sont pas beaucoup fous, donc ils la déclencheront jamais. Mais ce qui nous menace, c'est la surpopulation. Il y a trop de monde sur Terre. Aujourd'hui, avec 7 milliards d'habitants sur la Terre, on est trop. Je suis trop, tu es trop, vous êtes trop. Alors il faut faire quoi ? Tuer des gens, mais tuer des gens comment ? Pas pendant la guerre. Peut-être dans les jeux du cirque, mais les jeux du cirque, on n'en tirait que quelques dizaines par an ou par jour. C'est pas assez. Donc, effectivement, j'ai inventé ce gouvernement où, par tirage au sort, il y a 400 000 personnes qui doivent être tuées dans cette espèce d'entité qui s'appelle Centrum, mais qui est l'Europe, en fait, et qui doivent être tuées de manière tout à fait normale, tout à fait logique. Et les gens sont d'accord, il n'y a pas de révolte, ben oui, on est trop, donc il faut que des gens meurent, on meurt bien de maladie, on meurt bien d'accident, donc voilà, on est tué parce qu'on doit être tué. Et chacun sait bien, ça nous arrive à tous, c'est notre pensée à tous, ça sera bien sûr le voisin qui sera tué, ça ne sera pas nous. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que les gens acceptent passivement. Alors évidemment, il y a l'aspect romancier, romantique, et avec un personnage qui prend conscience et qui se révolte, mais malheureusement, la révolte d'un seul individu, ça ne peut pas mener bien loin, quoi.
La romance est dans le fait que ce furet se révolte parce que sur sa liste, il y a le nom d'une femme.
Voilà, tout à fait, c'est ça, la femme qu'il aime secrètement, qui est tirée au sort, alors à ce moment-là, il dit non. Mais encore une fois, j'ai voulu échapper à la bonne conscience, à la bonne parole, parce que ce personnage aurait pu engranger autour de lui d'autres révoltés, il aurait pu y avoir une révolution. Non, ce n'était pas possible, ça non plus. De même que le nazisme ne pouvait pas survivre à 45, dans cette société que je décris, si policier, dans les deux sens du terme, policière et policier, on ne peut pas se révolter, quoi. C'est comme ça, ça continue.
Christopher, et si le mal avait triomphé, c'est le titre. Est-ce que le mal n'a pas triomphé?
For me, evil won in 1980, I think it was, when Margaret Thatcher was elected Prime Minister of Great Britain and did a lot of terrible, irreversible damage to my country. But then she wasn't evil in the sense that Adolf Hitler was evil. She was just sort of kind of crappy.
Pour moi, en fait, le mal a triomphé dans les années 80 quand Margaret Thatcher a été élue première ministre d'Angleterre. Elle a commis des actes terribles, elle a commis des dommages irréversibles à mon pays. Elle n'était pas maléfique, mauvaise au sens où Hitler l'était, elle était juste un peu merdeuse.
Evil is very much a concept of religions that it's something that is used by religious leaders to prop up their particular dogmas. I don't think even people who are judged to be evil have a point of view. I don't agree with it, but I don't think anyone sort of sets out to do wicked things. People are very misguided and very dangerous and sometimes extremely stupid, but I don't think they're evil.
Je pense que le mal en soi, c'est plutôt un concept religieux. En général, c'est utilisé par des chefs religieux qui l'utilisent pour étayer leurs propres dogmes et les justifier. Je pense que même les gens qu'on voit globalement comme étant maléfiques ou mauvais, eux aussi ont un point de vue selon lequel leurs vues sont justifiées. Alors évidemment, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont d'accord avec eux, mais je pense que personne n'est fondamentalement maléfique. Je pense que beaucoup de gens sont mal guidés, mal informés, dangereux, stupides. Mais maléfique en soi, je pense que personne ne se dit un matin qu'il va aller commettre des actes maléfiques simplement pour le plaisir.
D'accord, mais en fait, quand on dit le mal, on pense toujours, et évidemment quand l'avant-titre, c'est les uchronies nazies, on pense toujours à Hitler. Le mal, ça peut être tout à fait autre chose qu'Hitler. Le mal n'est-il pas là? Qu'en pensez-vous, Johan?
Ah, tout à fait. Mais disons que Hitler est bien pratique en ce sens. Il en est la dernière grande incarnation politique. Mais je pensais, pour revenir à l'action, peut-être ce serait intéressant. Imaginons que peut-être dans 200, 300 ans, quelques écrivains, s'il en existe encore, se réuniront et parleront peut-être de notre société, écriront des uchronies sur les années de le début du XXIe siècle, disant mais c'était peut-être une société maléfique, peut-être pas du fait du nucléaire ou que sais-je. Enfin, il y a donc des mises en perspective, en vision selon les époques, selon effectivement, et c'est peut-être un peu facile on peut. Alors, je suis d'accord sur ce que dit Christopher sur le oui, il y a quand même plus un aspect moral, religieux, sur la notion de mal au sens de maléfique, mais si on la prend au sens le plus large possible, je pense qu'on peut, selon son point de vue et sa perspective historique, désigner toute société à un moment donné par certains aspects, oui, maléfiques, puisque à la limite. Rome avait, pour tous les peuples qui ont été soumis, écrasés par Rome, Rome c'était le mal. Pour nous, moins. Enfin voilà, c'est.
Tout est relatif.
Oui, aussi.
Et notre société d'aujourd'hui, Jean-Pierre, capitaliste, industrielle, oui. Consommation à tout craint, c'est pas ça aussi le mal?
Si, le mal il est là, maintenant il est beaucoup plus diffus. Je veux dire, le nazisme il peut pas revenir évidemment tel qu'il était, même s'il y a l'aube dorée en Grèce, des mouvements comme ça aux Pays-Bas. Mais c'est quelques centaines, quelques milliers de personnes, pas plus. Le mal, c'est diffusé dans la société, effectivement, capitaliste, sans frontières, sans morale. Qu'est-ce que c'est le mal? C'est Monsanto, aujourd'hui, je veux dire, ils vous fourguent du produit de merde qui font mourir les abeilles. C'est ça, le mal. Et on l'accepte. On l'accepte, parce que le mal, il est jamais. C'est toujours l'autre. Rappelez-vous quand. En mai 1944, en France, il y avait 30 millions de pétainistes, et puis en juin, il y avait 30 millions de gaullistes, quoi. Les Allemands, ils ont soutenu Hitler jusqu'en avril 1945, alors que tout s'écroulait. Le mal, c'est jamais soi, parce que soi, on peut pas dire qu'on est le mal soi-même. On est toujours le bien, puisqu'on est. Le mal, c'est l'autre, hein. Boko Haram, cette secte de merde, ben, le mal, c'est l'Occident. Ils ont raison pour eux. Ils ont raison, parce que les femmes doivent rejeter ses ailes. Donc le mal, c'est toujours l'autre. Et c'est pour ça que c'est très, très difficile à combattre aujourd'hui. Notre président Hollande a dit que le mal, son ennemi, c'était la finance. Mais c'est vrai. C'est la finance qui nous gouverne tout. La politique, maintenant, c'est la finance. C'est les produits de surconsommation qu'on nous oblige à acheter et à user. C'est l'épuisement des ressources géologiques et l'air et l'eau qui sont pollués parce qu'il faut produire toujours plus, parce qu'il faut consommer toujours plus. Et c'est un mal qui est d'autant plus terrible qu'on ne sait pas comment le combattre aujourd'hui. Comment il faut faire? Revenir à la bougie et au vélo, c'est un peu difficile. Donc, c'est très difficile, d'une part, pour nous, citoyens, de le combattre, et c'est très difficile pour nous, écrivains, de décrire cette société-là, parce qu'elle est tellement diffuse, on est tellement plongé dedans jusqu'au cou, que c'est très difficile de faire un récit cohérent là-dessus. Donc, on baisse les bras un peu, malheureusement, il faut le dire.
Christopher, quel peut être le rôle de l'écrivain, justement, dans cette... dans cette polémique sur le mal et sur la définition de ce que c'est?
I think the true evil that we face is climate change. I think it's beyond question that's happening. and it's going to get worse, and it's going to change the world forever. But that you can't point to any one thing and say that that is what's caused it. But what a writer can do, I've just published a novel in England, which hasn't yet been translated in French, called The Adjacent. And that has as its background a world in which climate change is really kicking in. And in writing that book, I had to make a decision what to do about climate change. There's basically got three choices. You can either ignore it and just pretend it hasn't happened, or you can try to solve it, find a solution to it, or you describe it as you think it might be. I went for the third one because trying to solve it is beyond me, and you can't ignore it because it's going to be, it's happening now. I mean, the people who lived in Western France and England during the winter discovered what the weather was like now, and people in the USA had one of the harshest winters ever. In fact, I think the harshest winter ever, and that was entirely due to climate change.
Je pense qu'en fait le véritable le mal premier qu'on affronte aujourd'hui à notre époque, c'est le changement climatique, et il est en train de se dérouler. C'est un fait. Je pense que ça va s'accélérer, ça va devenir pire et ça va changer le monde à jamais. Mais je pense qu'on peut pas pointer du doigt une chose en disant c'est ça qui cause le changement climatique. Alors qu'est-ce qu'un écrivain peut faire à ce sujet ? J'ai un roman qui vient de sortir, qui n'est pas encore traduit, qui s'appelle The Adjacent, les adjacents, et qui décrit un monde où en fait le changement climatique arrive pour de bon et même en train de s'accélérer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concernant le climat climatique ? On peut faire trois choses. La première, c'est concernant en tant qu'écrivain. La première chose, c'est qu'on peut l'ignorer. Deuxième chose, c'est qu'on peut décrire des manières de le résoudre. Et la troisième chose, c'est qu'on peut le décrire tel qu'on pense qu'il se déroulera. Alors bon, le résoudre, ça j'en suis pas capable. L'ignorer, bah, ça paraît pas très très logique parce que, bien, en ce moment, il y a des populations au sud de l'Angleterre, en France, qui découvrent en fait les véritables premiers effets du changement climatique. Et aux États-Unis, ils ont eu l'hiver récemment, là, ils ont eu l'hiver, un des hivers les plus sévères de leur histoire, si ce n'est le plus sévère.
For once, I want to answer Jean-Claude's question. What is the role of the writer? But 80 years ago, there was a writer in Britain called Cyril Connolly. He's probably not at all known in France, but he was a leading critic in Britain. And he wrote a book about the role of the writer called Enemies of Promise, which is a book well worth finding. But he said in that, the one role that is unique to the writer is satire. This is the weapon we have. It's the only, in fact, it's the most devastating weapon we have. And our role is basically to use satire to point out what's going on. It's not an immediately effective weapon, but it's the only one we have. And I try very hard to think satirically when I'm writing. I don't act like a satire magazine. I try to mock and question and undermine the reality that they present to us, because the reality they present to us, the people who run these places, is rubbish. We know they're lying. They don't know what's going on any more than we do.
Donc, pour une fois, je voudrais répondre à la question de Jean-Claude. Sur le rôle de l'écrivain. Il y a 80 ans, un auteur anglais, donc, qui n'est probablement pas traduit en France, s'appelait Cyril Connolly, mais qui en Angleterre était un critique de premier rang, a écrit un livre justement qui traite de la question du rôle de l'écrivain, qui s'appelle Animus of Promise, grosso modo l'élan de la promesse. Il dit dans ce livre que le premier rôle d'un auteur, c'est la satire. Et en fait, c'est l'arme la plus dévastatrice qu'un écrivain possède. Il le met en avant. Alors c'est pas forcément une arme qui a tout de suite suivi des faits, mais c'est la plus dévastatrice qu'on ait. Et quand j'écris, j'essaie de penser un peu justement à cette dimension satirique. Pas forcément comme un journal satirique, mais je m'efforce de moquer, de questionner, de saper un peu les choses et la réalité que, grosso modo, les gouvernants, de façon globale, au grand sens du terme, nous présentent. Parce qu'on sait que ça ne tient pas debout, et on sait aussi que ces gens-là sont comme nous, ils ne savent pas plus et pas mieux que nous ce qui se passe dans le monde.
J'aimerais bien avoir une réaction de Johan et de
Je pense que ça décrit très bien, à mon sens, ce qu'est la science-fiction et son rôle, un de ses rôles, je crois.
Jean-Pierre, beaucoup de satire dans ce que vous avez fait.
Oui, oui, il y a de la satire, mais bon, encore une fois, on écrit par plaisir, en essayant de faire plaisir à ceux qui vous liront. Mais ça, à part ça, ça va où? Ça va quoi? Qu'est-ce que ça change? Moi, je pense qu'un architecte qui invite un bâtiment à énergie zéro, voire à énergie positive, est plus utile à la société et à notre avenir que tous les écrivains du monde. Quoi. Je veux dire, il faut quand même rester modeste pour ce qu'on fait. Quoi.
Si on tient en compte l'audience actuelle de la science-fiction, c'est clair qu'on ne va pas changer grand-chose. Ah non.
Ouais, mais il y a quand même un rôle social de l'écrivain qui est peut-être celui-là, c'est le rôle d'alerte.
Je sais pas, oui, mais d'alerte, d'accord. Moi, je suis contre la voiture. Vous allez jeter votre voiture dans le fossé après m'avoir lu? Bah, bien sûr que non. Demain, c'est l'inverse que de lire Mein Kampf sans devenir fasciste pour autant, quoi. Les livres, c'est un amusement. Sartre a dit toute la littérature du monde n'empêchera pas un enfant de mourir de faim. Je suis resté sartrien, moi, de ce côté-là.
Après cette citation. On va laisser la parole c'est une habitude. On va laisser la parole à la salle. S'il y a l'une ou l'autre question, je vous en prie, c'est le moment. Allez. Passez à la deuxième question, puisque la première ne vient pas. Oui.
Talk about the architects who build energy neutral buildings is indeed thanks to science fiction that people have those.
Donc, pour que tout le monde comprenne, monsieur demande à Jean-Pierre si ce n'est pas l'écrivain de science-fiction qui peut générer chez des architectes, par exemple, l'envie de créer, de fabriquer des maisons à énergie positive, par exemple.
Moi, je crois qu'ils sont poussés par la nécessité, par la nécessité de faire des économies. Quelle était la ville rêvée des écrivains de science-fiction ou des illustrateurs de science-fiction dans les années 20 ou 30. Vous avez vu Metropolis, c'est des immeubles immenses, il y a des avions qui circulent entre les tours, il y a des trains, il y a des voies de circulation partout. Ça se passe pas comme ça, ou quand ça se passe comme ça, c'est l'horreur, en fait. Moi, je crois que les écrivains de science-fiction réfléchissent sur le présent, projettent ce présent sur un futur hypothétique qui est favorable ou qui l'est pas, qui est optimiste ou qui est pessimiste. Mais on en reste là. Je crois que c'est vraiment la réalité qui prime. C'est pas souvent les écrits. Je dis pas qu'il n'y ait pas certaines idées, peut-être, d'écrivains de science-fiction qui ont permis à des scientifiques ou à des ingénieurs de se lancer sur telle ou telle piste. Mais c'est quand même très rare, quoi. J'ai l'air comme ça de dénigrer mon propre métier, mais bon. Il faut en montrer les limites. Oui, c'est ça.
Il y a des limites comme ça, Christopher? To your role, à votre rôle d'écrivain.
And to your role as a writer, what do you think of the limits?
Getting back to climate change, I started reading science fiction about, I suppose, more than 50 years ago. And soon after I started reading science fiction, I realized what climate change was going to be. Global warming was something that was built into the texture of science fiction. And I've always worried about it. And now, in the last 10 years, everyone's worrying about it. So science fiction, in that sense, warned that it was going to happen. But it didn't. Nobody listened. So I think if you... I'm sorry, I don't object to people building energy-free buildings or anything like that, but I can't build that. I can't make people abandon their cars and go by train. I can't make people stop drilling oil and burning it. I'd like to do all these things. I'd like to stop them fucking up the air with the pollutants, but I can't stop them. But I can write about them doing it and hope that what I say might have a tiny effect on somebody somewhere who can do something about it. It's a small hope.
Je voudrais revenir sur la question du changement climatique. J'ai commencé à lire la science-fiction il y a probablement un peu plus de 50 ans. Et peu après, en fait, je me suis très vite rendu compte de ce qu'allait être le changement climatique, le réchauffement global. Et finalement, c'est vraiment, ça fait partie de la texture de la science-fiction toujours en sous-main. J'ai commencé à m'inquiéter à ce sujet, en fait, assez vite. Ces 10 dernières années, ça y est, tout le monde s'inquiète à ce sujet. Donc la science-fiction nous a avertis très tôt de ce qui allait se passer, mais personne n'a écouté. Alors, je ne suis évidemment pas contre, loin de là, les gens qui font des immeubles à énergie zéro. Moi, je peux pas fabriquer ça. J'aimerais bien, mais j'en suis pas capable. Je peux pas dire aux gens d'abandonner. Je peux pas pousser les gens à abandonner leur voiture. Je peux pas pousser les gens à arrêter d'extraire du pétrole et de le brûler. Je peux pas empêcher les gens de pourrir l'air avec tout un tas de polluants. J'aimerais bien en être capable, mais c'est pas possible. Je peux pas les en empêcher. Par contre, je peux écrire sur ces questions-là. J'espère que ce que je dis, peut-être, pourrait avoir un minuscule effet sur une personne à un moment qui pourrait éventuellement être en position d'agir peut-être un peu sur la question. C'est un très modeste et très maigre espoir.
Entre un scepticisme sartrien et une petite goutte d'optimisme, y a-t-il une autre question ?
Oui.
Donc, pour que tout le monde comprenne, il y a eu un bouquin en Allemagne de Timur Semles ou quelque chose comme ça, dont j'ai oublié le titre en français, mais qui vient de sortir en français il y a 2 mois. Il est sorti, hein, oui. Il est de retour, oui, c'est ça. Et donc, Hitler revient dans un monde qui est bien, bien changé pour lui. Et malgré tout, je n'ai pas lu le bouquin, donc malgré tout, il parvient à communautariser des gens et à... Oui, Johan.
À titre personnel, je suis pas super optimiste. Alors que la même chose se reproduise exactement, non. Mais un processus analogue, je crois qu'on n'est jamais à l'abri du pire. Très récemment, alors j'ai oublié son nom, mais enfin le nouveau dirigeant, le nouvel homme fort en Inde, l'Inde, comme 20% de la population mondiale. Et assimilé à un fasciste, voire à un nazi par pas mal de gens, Salman Rushdie le premier, donc je pense des gens qui savent un peu de quoi il parle. Je connais pas toute l'histoire, mais enfin voilà, je sais qu'il y a de fortes inquiétudes. Voilà, Poutine, l'Ukraine, enfin je dis bon, c'est autre chose, mais ce sont des processus pour... je vais pas faire de relativisme, de comparativisme historique, c'est pas la question, mais voilà. Alors la même chose, un Hitler bis, non. Mais enfin, un processus... Alors de destruction, analogue, avec dans ses effets à un moment donné, je ne crois pas qu'on soit définitivement à l'abri de ça. Ça, je ne pense pas. Non.
Jean-Pierre ?
Oui, il y a un morcellement comme ça, des petits Hitler, il y en a partout, hein, ils prolifèrent, mais effectivement, il peut pas y avoir un Hitler bis qui voudra reconquérir le monde. Mais par contre, ce processus de morcellement, de parcellarisation du monde, je crois, ne peut s'accentuer parce que les ressources s'épuisent, parce que la population s'accroît, donc on a tendance à se refermer sur soi-même et à rejeter tout ce qui est autre, tout ce que sont les étrangers. Moi, une Europe qui serait entourée d'un espèce de gigantesque mur de l'Atlantique et de la Méditerranée, où on tirerait au canon sur les bateaux d'immigrés venant d'Afrique, ça me paraît effectivement pas du tout impossible. Hein. Mais encore une fois, moi, le point nodal de mon inquiétude, c'est vraiment la surpopulation. 7 milliards, dans 25 ans, 8 milliards, dans 50 ans, 9 milliards. On va aller où comme ça? Vous pouvez me le dire?
On ne le verra pas, nous. OK. Eh bien, voilà, il est presque 5 heures, donc it is time. Nous laissons la parole à ceux qui vont suivre. Merci de votre attention. Merci à Christopher, Jean-Pierre et Johan. Et bonne soirée.